Bonjour, bienvenue sur Indie & Co, le podcast sur le jeu vidéo indépendant. Je m'appelle Christopher, je suis avec Alexis. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aziz Goumiri. Aziz, tu es un développeur de jeux vidéo, tu fais partie d'une boîte qui s'appelle Bullet Team.
Oui, tu l'as fondée.
Aussi,
c'est ça. Voilà. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu es tombé dans le jeu vidéo ?
Je suis tombé dans le jeu vidéo, j'avais un boulot bien, tranquille, j'étais ingénieur d'études, je faisais des études en économie ou en gestion, et puis il y a eu le Covid, l'activité s'est un peu ralentie, ça m'intéressait plus trop, je me suis dit bon, un truc que j'ai toujours aimé dans ma vie, c'est le jeu vidéo, on va essayer de faire un jeu. Donc à la base c'était l'histoire de faire un jeu. Il se trouve que c'est compliqué tout seul quand on n'a aucune idée de par où commencer, de quoi faire. Et du coup, j'ai fait une formation Unity, j'ai rencontré des gens et j'avais un petit GDD sur mon drive comme ça. Je l'ai pitché à la promo et puis des personnes qui m'ont suivi. J'étais genre ok, ça marche. On dirait qu'on est un studio, on dirait qu'on bosse en fait. On se retrouve tous les jours et puis on avance sur un proto. Et au bout de 6 mois, en fait, ça a commencé vraiment à prendre forme. C'est-à-dire qu'on commençait à kiffer un peu ce qu'on faisait. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait avec de l'argent ? On fait la même chose, mais avec des ressources. Et du coup, on a monté un plan financier. Enfin, je suis allé voir les banques, je suis allé chercher de l'argent vraiment partout. Donc, on a trouvé comme pas mal d'argent à droite, à gauche. J'ai mis à peu près toutes mes économies aussi. Et on a pu recruter une super artiste qui s'appelle Léa Antonios, qui était senior animatrice. Donc elle, c'était vraiment l'animation, son truc, et l'anime 2D. Et franchement, tout ce qu'elle faisait, c'était vraiment super. Donc à partir de là, on était une bonne team. On était 5, 3, on va dire, fondateurs, un dev, moi, GD, prod, tout le reste, et une artiste. Puis 2 alternants, il y avait aussi des stagiaires de temps en temps avec nous. Et donc on a bossé, voilà, comme ça, et on a travaillé sur un jeu qui s'appelle Dernot Monsters.
Ok, du coup, nous on revient encore en arrière, comment tu as découvert le jeu vidéo ? Et c'est quoi tes premières expériences de jeu vidéo ?
Alors,
aussi loin que ça,
oui,
peut,
c'est ça.
Tu peux t'en souvenir ?
Je vais essayer d'aller très très loin, je pense que c'est Sega, la première fois que j'ai compris le concept des jeux vidéo, quoi. On avait une console Sega à la maison, alors c'est mon frère qui y jouait tout le temps.
Ouais.
Moi, je pouvais pas parce que j'étais trop petit et je perdais tous les combats physiques. Et du coup, donc la première console, c'était Sega. Bon, après, j'ai eu une Game Boy, j'ai eu plusieurs jeux comme ça. Je me souviens de GTA 2 ou GTA 1, celui qui était en top-down.
Le 1 ou le 2, parce que c'est à partir du 3 qu'ils sont passés
ouais.
En 3D. Ouais.
Donc ça aussi, j'avais joué à ça. Et franchement, toute mon enfance, mon adolescence, Counter-Strike, Dota, Warcraft, c'était une enfance de jeux vidéo, quoi. Genre vraiment.
Ouais, du PC aussi, du coup.
Ouais, ouais du pur PC. Oui, c'est vrai.
Surtout
d'un moment,
du PC.
Ouais. Que du PC au bout d'un moment. Là, dernièrement, je suis un peu plus posé, donc on a une console à la maison avec ma femme, on peut jouer à deux plus facilement et tout. Mais je suis avant tout un gros joueur PC. Et en fait, dans l'équipe, vu qu'on était des joueurs PC, on s'était dit, bon, on va faire un jeu PC. C'est ce qu'on connaît le mieux. Donc on va aller là-dessus. Moi, c'est un peu comme ça que je suis tombé dessus. En fait, depuis toujours, je joue aux jeux vidéo. Aussi longtemps que je réfléchis au collège, au primaire, au lycée, vraiment tout le temps. C'est juste que là, dernièrement, professionnellement, je me posais des questions et je trouvais ça un peu comme constante dans ma vie. Je me suis dit, bah écoute, essaye.
Ouais, c'était pas une vocation première, c'était plus... t'as l'habitude de jouer, ça fait partie de ton quotidien et tu te dis, tiens, j'ai envie de... Enfin, est-ce que la création, c'est quelque chose qui donnait déjà envie avant, en fait, c'est aussi ça.
En fait, je sais pas. Je fais partie des gens qui ont énormément de problèmes pour trouver ce qu'ils veulent faire.
Ouais.
J'ai travaillé même dans le milieu de l'orientation et j'ai beaucoup de mal à moi-même m'orienter scolairement. Donc, j'ai beaucoup hésité. J'ai fait une école d'informatique, j'ai fait de la psycho, j'ai fait du commerce, juste pour vous dire. Voilà, donc en termes de ligne droite.
Pas dans cet ordre-là, parce que j'imagine que quand t'as proposé à ta promo, c'était pas l'école de commerce.
Ah non, j'ai fait exactement dans cet ordre-là.
Ah ouais.
J'ai commencé par 2 ans d'école d'informatique, une prépa à Listia, Angers.
Okay.
Ensuite, j'ai fait un master, j'ai fait licence master en psycho.
Ouais.
Et ensuite, j'ai intégré l'IAE de Paris en commerce.
Okay.
Donc vraiment, je ne comprenais pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire, j'étais là, qu'est-ce que tu veux faire, ça, ils ont bon sens.
Ça fait un paquet de talents qui ont du sens qu'on monte une boîte en jeu vidéo, quoi.
Ça aide vraiment, en fait, tout aide parce que le développement, aujourd'hui, je peux développer. C'est pour ça que je t'ai dit oui à développeur parce que je développe et je donne des cours de développement dans des écoles. La psycho, honnêtement, je trouve que c'est juste fondamental dans plein de choses, comprendre comment les gens réfléchissent et se comportent. Et puis un peu de commerce, un peu d'administration, un peu de gestion de projet, tout ça, c'est vraiment très très bien. Donc effectivement, tu peux combiner tout ça et monter une boîte, je vais pas dire facilement, mais tu sais ce que c'est un bilan financier, tu sais ce que c'est le marketing, tu sais ce que c'est le management, c'est cool.
Ouais, tu passes des étapes plus facilement que certains qui vont se prendre des...
C'est ça. Après, donc voilà, le concept de créer... en fait, il ne m'est pas venu vraiment naturellement. C'est juste qu'effectivement, j'avais des petites idées des fois que j'écrivais, petit calepin sur le table de nuit, comme beaucoup de créatifs. Mais vraiment, là, c'était vraiment le voir ce que ça donnait. Si ça se trouve, ça n'allait rien donner et j'allais repartir sur autre chose, repostuler pour un CDI juste après. Puis en fait, je trouvais que ça commençait à donner quelque chose. Et là, je me suis dit, bon, ben, all-in. On essaie vraiment de donner sa chance à ce projet à fond et on voit ce que ça donne.
Excellent. Je sais pas.
Non, je...
Moi, j'allais lui demander de quoi parler ce jeu qui est sur son t-shirt.
Mais... Bah, j'allais justement briller là-dessus.
Ah, donc, voilà,
c'est parfait.
On est tellement
voilà, qu'est-ce que donc est le jeu ?
Valiant Monster, c'est un jeu où tu joues un savant fou qui va contrôler un village de paysans pour les mener à la révolte contre le roi. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les gens voulaient se révolter, et dès que les gardes débarquaient, bon, bah, on passe le balai devant sa porte, on regarde ailleurs. Et puis, il leur a dit, bah, écoutez, vous avez peur ? Moi, j'ai une solution. Je vous enlève votre peur. Bon, les petits des effets indésirables, c'est-à-dire que vous êtes à ma... Enfin, vous m'obéissez, etc. Mais ça, vous allez voir, vous n'avez pas de souci. Donc, en fait, vous accumulez comme ça une petite armée de lapins contrôlés génétiquement. Et c'est vraiment dans le thème du savant fou, Frankenstein. Un mélange un peu entre Tesla, c'est-à-dire l'électricité, la connaissance, et Frankenstein, la chair, l'alchimie un peu mystique et tout.
Ouais.
Et le jeu se veut vraiment cartoonesque et se veut bourré de références, bourré de... j'ai envie de dire de fanservice, mais en fait bourré de culture pop. Hein. On a à peu près la trentaine, donc on a une enfance... moi, par exemple, je suis né en Algérie, mais quand je vois les références culturelles, si je vous dis Laboratoire de Dexter, tout ça, Linus et Cortez, enfin, on a les mêmes refs, en fait, de savants fous, de cartoons et tout.
Ouais.
Donc on est parti à fond là-dedans, parce que nous, on aime ça. Et puis Léa a fait des dessins animés quand elle faisait de l'animation. Et donc, elle a une patte graphique vraiment dessin animé, cartoon.
Moi, j'ai vu passer les images. C'est très beau. Hein. C'est très sympa. Ouais, elle a vraiment une qualité graphique. Bon, en tout cas, moi, ça me parle. Parce que c'est vrai que, on va dire, il y a tout un panel de plein d'arts graphiques différents. Oui. Et ça peut parler ou non à des gens. Et moi, je sais que ça, côté dessin animé, ça me... Enfin, très cartoon, comme tu dis.
Ouais.
Ça, c'est vraiment sympa. Et du coup, tu as dit que tu l'avais recruté, mais tu la connaissais d'avant ou...
Non, vraiment... offre d'emploi sur la FJV.
Ok.
Une vingtaine de candidats. Et puis, elle avait vraiment un profil de ouf. Donc, ça s'est vraiment fait comme ça. Et puis, après, on lui a donné des parts dans la boîte. Et puis, elle est restée avec nous.
C'est beaucoup plus.
On voyait les trois personnes vraiment développement, création, conception et art comme être les moteurs de la boîte.
Ouais.
Donc, on s'est dit, on va y aller là-dessus. Et puis, de fil en aiguille. On a fait notre premier salon, on a fait un petit salon à Paris, après on a fait le Stunfest. Puis voilà, on commençait à parler à des gens. Donc aujourd'hui, c'est devenu un petit quelque chose, quoi.
Et là, vous en êtes où dans la production actuellement ?
Alors, en gros, je pense tous vos spectateurs, auditeurs ?
Les deux. Il y a des gens qui regardent et il y a des gens qui écoutent.
Tous vos followers,
votre
public, c'est, je pense, à peu près les cycles de production d'un jeu vidéo. Vite fait.
Je pense que tu peux vite fait résumer si tu peux, hein, ce que on s'adresse à tout le monde. C'est vrai que je pense que la plupart des gens, dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt dans la production de jeux vidéo ou en tout cas curieux. Mais il y a un peu tout le monde, je pense.
Bah, en gros, le game aujourd'hui, quand vous vous lancez, soit vous avez assez de sous pour faire un jeu tout seul. En gros, vous codez, enfin, vous êtes quelques-uns, vous n'avez pas besoin de sous pour rien, et puis vous faites tout seul, et puis vous lancez votre jeu. Nous, ce n'est pas le cas. En plus, on commence à avoir un certain âge, l'âge vénérable de la trentaine, hein. Et du coup, on a besoin d'argent pour des loyers, pour ces choses comme ça, donc on voulait trouver d'argent, et beaucoup d'argent, parce que c'est 2 ans, 3 ans de salaire fois 3 personnes, plus les charges, tout ça. Donc en fait, le jeu, c'est de trouver de l'argent pour créer un très beau prototype, on l'appelle une vertical slice dans le jargon, aller voir un éditeur, enfin, aller en voir environ 4 millions, leur présenter le jeu, tous, et puis il y en a un qui dit, ben banco, je te donne 200 000 euros et je prends 50% des ventes. Schématise, mais c'est pas très loin de notre cas à nous. Donc en gros, pendant tout début 2023, on a bossé sur notre proto, on a trouvé des éditeurs sympas qui nous faisaient des retours, même si c'était très early, hein, tu vois, le truc était encore tout pété, la direction, enfin, il manquait beaucoup de choses, les animations c'est très long à faire. Donc il manquait beaucoup de choses, le gameplay était pas au point, on changeait d'idée assez souvent, mais certains éditeurs nous faisaient des retours, aller plus dans cette direction, ça c'est cool, ça c'est pas cool. Et un peu la consécration pour nous, ça a été le Stunfest, donc à Rennes, et on avait une démo qui était bien jouable, qui était cool, qui était encore, elle avait encore des gros problèmes, mais c'est parce qu'on fait un jeu qu'on peut appeler un jeu systémique, c'est-à-dire un jeu qui dépend beaucoup sur un système imaginé par le concepteur. C'est par opposition aux jeux artistiques ou des jeux narratifs ADA, où en fait, vous allez juste... C'est plus facile de ne pas faire d'erreurs d'équilibrage, de choses comme ça, parce que le tout, c'est votre art, en fait. Vous présentez comme une pièce... une scène de votre jeu, en fait, donc plus vous travaillez dedans, mieux c'est. Mais un jeu systémique, c'est compliqué parce qu'il faut tout équilibrer, il faut prendre en compte les situations. En même temps, vous ne pouvez pas tout coder parce que le but, c'est que ça génère des scènes uniques, des rencontres, des trucs comme ça. Et de l'autre côté, bah, il ne faut pas que ce soit des choses absurdes, il ne faut pas qu'il y ait des stratégies complètement pétées, il faut que le joueur puisse s'amuser, que ce soit difficile mais pas difficile. Donc en fait, au Stunfest, on avait encore beaucoup de problèmes de design comme ça, mais les gens venaient pour la DA. Pour la direction artistique. Les gens venaient, ils voyaient des lapins, etc. On avait des t-shirts, on était trois un peu dynamiques comme ça, donc les gens venaient, c'était cool. Quelques éditeurs sont venus nous parler et tout, pour dire bah, écoutez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Donc le Stunfest était vraiment cool. On avait un proto avec beaucoup de problèmes, en gros, mais assez beau. Ensuite, il y avait le Game Camp, c'était à Lille en juin. Donc ça, c'est un mois plus tard. Alors, on a à peu près supprimé la moitié du game design entre ces deux périodes parce que on a un problème qu'on se trimballe, sans rentrer dans la technique, mais on a un problème de design qu'on se trimballe depuis le début du jeu. Et j'en avais juste marre, en fait. C'est que, tu sais, genre, on avait une mécanique principale qui, tout le monde nous parlait que de ça. Et moi, je voulais faire un truc hyper innovant, du jamais vu. Vous allez voir le jeu vidéo, ça va plus être pareil après, etc. Mais tout le monde nous parlait que de ça, et vous êtes sûr, et ça marche pas, et moi j'ai pas compris, et c'est compliqué, ah c'est intéressant, c'est super. Et du coup, on a tout supprimé et on l'a remplacé par un truc beaucoup plus casu. Et en fait, quand on est arrivé au Game Camp, le jeu se jouait de lui-même déjà. On n'était pas genre là à expliquer pendant 15 minutes comment jouer au jeu.
Ouais.
Filer le PC, le gars jouait, et c'était ouf. Et on était là genre incroyable, ouais. Ça c'était pas arrivé depuis. Donc on a fait une grosse refonte du design. Le Game Camp s'est bien passé, on a eu pas mal de touches avec des éditeurs. Donc c'était des sessions de 30 minutes où tu dois présenter l'année et demie qui vient de se passer en 30 minutes, enfin en 15, et puis répondre aux questions en 15. Donc c'était super cool, on a rencontré plein d'éditeurs français, on a rencontré, je peux donner des noms, on a rencontré Goblins, on a rencontré Shiro, on a rencontré Ubisoft, super intéressé, alors que je pensais même pas. Ubisoft, c'est quand même un géant, comme si demain tu fais un petit film et il y a Amazon Prime ou Netflix qui te dit bah c'est intéressant, tu vois. Pardon, excuse-moi. Donc j'étais un peu comme ça. Donc on a rencontré vraiment des personnes super intéressantes qui nous ont fait des retours, qui nous ont dit on reste en contact, on se reparle, faut que vous parliez à notre équipe production, faut que vous parliez à nos testeurs et tout. Donc ça c'était super cool. On est revenu avec une grosse liste de cours, c'est-à-dire bon ok, il faut qu'on fixe ça a plu. Et le truc qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, on savait pas vraiment ce que ça allait donner. On a une idée de nos points forts, de nos points faibles, mais les éditeurs, ils en ont d'autres. Et en fait, moi, j'avais cette vision des éditeurs. En gros, c'est des gens qui voient passer des centaines de jeux dans l'année. qui voit passer des vingtaines de releases, qui voit passer des chiffres market. Tu sais, c'est vrai, quasi omniscient sur le jeu vidéo. Et on pensait que du coup, les retours allaient être pareils, similaires. C'est-à-dire qu'il allait avoir un genre de fil rouge dans le retour, genre votre gros problème, c'est le combat, tu vois, ou un truc comme ça. Et on s'est rendu compte que chacun a une façon extrêmement précise de voir le truc. C'est-à-dire qu'on pouvait... En plus, j'étais avec Léa, qui était avec moi au GameCamp. On pouvait passer 30 minutes avec quelqu'un qui nous disait « Le design ne touchait pas. C'est nickel. Ouais. C'est parfait. » Et l'autre qui nous disait « Alors, votre design, pour l'instant, il est cassé. Et je vais vous expliquer pourquoi, pendant 30 minutes, il est cassé. Et » Et t'es là, genre « Oui, 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 c'est vrai, il est cassé. » Et juste après, vraiment juste après, tu fais un autre entretien. « Oh, t'inquiète, le design. » Pas de souci, il est bien comme ça. C'est pas sur ça que tu dois faire. Mm-hmm. Par contre, je veux voir ça, ça, ça. Et en fait, on est revenu avec là en mode qu'est-ce qu'on fait ? Sur quoi on avance ? Je veux pas juste avancer sur ce que moi je pense être bon parce que le but c'est vraiment de signer ce deal. Bon, c'était 2 mois très compliqués d'un point de vue décision. On prenait des décisions tous les jours, mais des décisions hyper sauvages et importantes. Genre, putain, là on va bosser l'UX, on va pas faire ça. Je te donne un exemple, on avait un éditeur qui nous a dit « Le jeu est super, mais je veux voir un combat de boss. » En fait, le jeu, c'est un petit auto-battler, donc plein de mobs qui combattent d'autres mobs, et toi, tu n'interviens pas beaucoup dans le combat. C'est ça, un auto-battler. Mmh. Il nous a dit « Ok, mais là, pour que j'évalue vraiment la puissance stratégique du jeu, je veux voir un combat de boss. » Ça, c'est un éditeur. Tu sors de ça, tu vas voir un autre éditeur qui vous dit « Le design est nickel. » Je veux que vous m'améliorez l'UX de votre jeu. C'est-à-dire les drag and drop, les boutons, qu'est-ce qui est cliquable, qu'est-ce qui n'est pas cliquable. Mm. Je veux l'expérience utilisateur du jeu, elle n'est pas bonne. Le design, c'est bon. Touchez à rien. Donc, tu es là genre, ok, je vais améliorer l'UX. Troisième, le game design n'est pas bon. C'est-à-dire que là, votre jeu, il ne marche pas. J'arrive pas à trouver ce qui est cool dans votre jeu.
C'est quoi le fun ?
C'est que j'arrive pas à trouver le fun dans votre jeu. T'es troisième, ok. T'arrives au quatrième, c'est nickel. C'est nickel, touche à rien. Touche à rien, c'est nickel.
Bah, c'est à lui qu'il faut demander de l'argent, du coup.
Oui, bah non. Alors le truc, c'est qu'il faut demander à tout le monde. Parce que moi, j'étais naïf. Moi, quelqu'un qui me dit « je t'aime, j'aime ton jeu », j'étais là genre « bah écoute, tu sais quoi ? On laisse tomber toutes les autres négos, on va avec toi. Ouais. » Moi, j'étais comme ça. Ouais. Mais ça marche pas comme ça. Ouais. Parce que le « je t'aime », le lendemain devient... Alors, c'est qui déjà ? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et vraiment, on a eu des déclarations d'amour qui se sont suivies par « on n'a pas le temps, on est sur autre chose. » Et on était vraiment en mode « mais c'est quoi ce monde horrible ?»
Ah ben, on en avait parlé avec d'autres pendant l'émission, comme ça. C'est un peu le même ressentiment, tu vois, t'as ce truc de les gens veulent pas être méchants avec toi aussi, donc du coup, ils vont pas te dire que c'est de la merde, mais par contre, ils vont dire « ah ouais, peut-être changer ce petit truc, machin ». Et puis ceux qui, peut-être, potentiellement, trouvent le jeu intéressant, mais pas suffisamment, ils vont te dire « ah, oh, c'est vraiment cool », et puis hop, salut, on se revoit plus, quoi.
Alors, en plus, moi, j'essayais d'avoir une approche scientifique, je me disais « c'était quoi les points négatifs soulevés par les éditeurs ?» Et je les écrivais. Et quand... alors, juste pour vous finir, donc ça c'était le GameCamp, c'est plutôt des éditeurs français. Et puis il y a la Gamescom, c'est en Allemagne, c'est le même format mais en à peu près 6 à 7 fois plus grand en termes de business. Et là, t'as des éditeurs internationaux, beaucoup européens, mais on avait de l'américain un peu. Et alors là, du coup, j'y étais allé avec mon autre associé, Jordan, le développeur, et on a fait 5 entretiens. Les 5 étaient... Il n'y avait pas un point négatif sur les 5 entretiens avec les éditeurs. C'est-à-dire qu'ils nous ont... Ils ont tout gobé et ils étaient en mode super, nickel, super, magnifique, parfait, super. Et c'est genre, alors, qu'est-ce que t'en penses ? Vas-y, balance du... Rentre-moi dedans, tu vois, genre. Vas-y. Et non, non, ils étaient genre vraiment... Non, non, rien à dire. Nickel, super. Ah, j'adore. Ne me dites pas qu'il y a ça. Oh, il y a ça, trop bien. Tu sais, il y avait des trucs comme ça. Imagine, toi, t'es là, genre, me dis pas qu'il va faire ça. Oui, oh, trop bien, c'est marrant, ça.
Et t'es genre, ouais, c'est nous qui avons fait ça.
et franchement, on est arrivé en mode, c'est bon, bien joué, les gars. Ouais. Bah, l'argent, voilà mon RIB, quoi, genre, à bouler, quoi. Et en plus, non, mais il faut qu'on se reparle vite la semaine prochaine. Vite, 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 qu'on perde pas de temps. Et si vous avez, s'il y a un autre éditeur qui se positionne, dites-nous, hein. On peut aller plus vite. Je vous ai dit, une semaine, ça peut aller plus vite. On peut faire en 3 jours.
Ouais.
On se sentait comme ça. Et du coup, donc là, on avait un proto qu'on avait testé au Stunfest, qu'on avait affiné pour le Game Camp, qu'on avait suraffiné pour la Gamescom. Et on commençait à avoir pas mal d'éditeurs avec qui on parlait, etc. Et avec qui on avait vraiment des entretiens avancés, pas juste « Ah, c'est cool ce que vous faites. C'est cool ce que vous faites, combien vous avez besoin d'argent, pour quand, c'est quoi votre plan ?» Et du coup, ça, je faisais énormément de documents. Et dernièrement, en fait, c'était en septembre, donc post-Gamescom, etc. Nous, on était là, on attendait, ça allait très vite. Et puis les éditeurs, ils te font passer des dizaines, enfin pas des dizaines, mais 4-5 entretiens. Faut que tu vois l'équipe market, faut que tu vois l'équipe prod, faut que tu vois l'équipe design. Et chacun te pose des questions ultra spécifiques de ton jeu, des détails de ton game design, comment ça avance, etc. Des détails de ton plan financier et tout. Et vraiment, c'était... Moi, je me suis dit, putain, on est en train de signer notre premier jeu, etc. D'habitude, les gens signent jamais leur premier jeu. C'est un peu un échec commercial, humain, etc. Mais ça te forme pour le deuxième, qui va être bien, promis. Et nous, on était là, genre, ok, on est le 0,1% qui ont réussi à sécuriser un deal et tout. Et on nous a même fait une offre, en fait. Concrètement, on nous a dit, bon, voilà, vous faites le jeu pourtant. On mettait le budget market et on l'édite et c'est comme vous voulez. Et le truc, c'est que on nous a fait une première offre qui était ok. Et les autres nous disaient, alors là pour le coup je pourrais pas donner de nom parce que je discute toujours avec eux. Donc je peux vous donner les montants. On nous a fait une première offre à 100 000 euros. 100 000 euros, vous faites le jeu et puis tu sais, une fois que t'as de la thune, tu peux en trouver un peu à côté, un CIJV, des DZ, des crédits d'impôt, etc.
Ouais.
Donc voilà, avec 100 000, tu peux à peu près aller à 200 000 si tu arrives à trouver un prêt bancaire, etc. 200 000 pour faire un jeu, c'est pas mal. En gros, tu peux avoir un an d'une équipe de 3-4 personnes qui bossent sur le jeu avec un peu de presta. C'est cool. Et du coup, j'étais là genre, c'est vraiment cool, on a une offre, les gars, etc. Et les autres étaient en mode, attendez, vous demandez 200 000, vous voulez pas plutôt 500 000 Et j'étais là genre, bah oui, alors maintenant que vous le dites, effectivement, ça nous arrangerait d'avoir 500 000 euros parce qu'on a tous ces projets, on a tous ces trucs et tout. Et l'autre, ils étaient genre, parce que je leur expliquais avec 100 000, enfin avec 200 000, je vais chercher ce prêt bancaire, cette subvention et tout.
Ouais.
Et il y en a un qui nous a dit, non mais pourquoi on vous donne pas juste tout l'argent en fait? Pourquoi juste, pourquoi vous allez chercher vos trucs et tout, démarches administratives, oh, n'importe quoi. Laissez-nous vous donner tout l'argent. Et du coup on était là genre, bah oui. Puis il y avait des énormes noms de l'édition, vraiment les leaders, on parlait avec les leaders européens de l'édition. Et donc la première offre, on a dit, bah on va réfléchir. Vite fait, enfin, on est en train de discuter entre nous.
Ouais.
Et je me souviens vraiment le. Donc, alors, il y avait trois éditeurs qui étaient dans cette posture de vous voulez pas qu'on vous donne beaucoup plus d'argent. On adore votre jeu. On a passé tous les entretiens. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, tu parles avec les testeurs, les designers, ensuite avec les producteurs et ensuite avec l'argent, les financiers. Ouais. On avait passé tous ces entretiens sauf le financier. Le financier, c'est celui qui va dire est-ce que le jeu est rentable ou pas. Est-ce que le jeu va ramener. Alors, je peux dire, les seuils qu'on m'avait dit, c'était il faut qu'on touche deux fois notre mise. L'éditeur doit toucher deux fois sa mise en un an, après la sortie du jeu. Ce qui est énorme. Donc, si je te donne 300 000 euros,
ouais, faut que tu fasses
600 000 euros.
Pour l'éditeur. C'est ça. Ou c'est.
Bah tiens, ça je sais pas. Est-ce que c'est que pour les. Non, c'est pas mal. Est-ce que c'est que l'éditeur
ouais, si,
alors, si, non, alors oui, non, c'est bon. Dans la mesure où l'éditeur se rémunère d'abord sur les ventes du jeu, tu sais, il y a un deal où d'abord c'est l'éditeur qui se rémunère, après c'est le studio. Donc dans la mesure, il touche les 600 000 assez vite. Mais effectivement, plusieurs fois j'ai entendu ce truc de deux fois dans les 12 premiers mois. Et en fait, donc, et je me souviens, c'était un mardi, et je reçois les trois mails, enfin deux mails en même temps. Finalement, ça va pas le faire en fait.
C'est court comme mail.
Oh, le mail était long. Je le résume parce que. Et je tremblais. J'étais genre. Quoi? Genre, attends, c'est. Et un troisième studio qui nous parlait plus depuis qu'on a appris qu'il y avait des licenciements dans le studio, chez l'éditeur. Donc il passait une période difficile, donc il a coupé toutes les conversations. Et on était là, genre. Ah merde! En fait, on s'est dit, il y a trois éditeurs qui sont amoureux de notre jeu. Nous, on les adore. On a fait des entretiens, genre, comment vous bossez, comment nous, on bosse. Et on était là, genre, putain, le rêve. Ouais. On est alignés sur tout, tu sais, genre, les âmes sœurs. Et le même jour, enfin bon, l'autre, il a arrêté de nous parler depuis un moment. Et le même jour, les deux nous disent, c'est mort, mais genre, c'est mort. Hein. Pas, on réfléchit ou est-ce que vous pouvez changer ça. C'est mort.
Ouais.
Et j'étais vraiment effondré. Tu sais, genre tremblant, j'ai envoyé un petit mail à celui qui nous a fait la première offre. Finalement, on accepte. Et il nous a dit...
non.
Trop tard. Et il a un peu plus long, mais trop tard.
Aïe, 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 aïe.
J'étais genre... Oups.
Que tu reviens à zéro, hein, c'est ça.
Tu reviens un peu à zéro. Alors en vrai, on a encore d'autres touches et il y a des négociations qui se passent bien. Mais en fait... tu reviens un peu. Alors déjà, tu reviens de très très loin.
Ouais.
J'ai commencé à chercher un studio. J'ai démarché des prestataires pour le côté, pour la protection de l'IP du jeu. Tu vois, j'étais allé un peu loin. Je parlais du prêt bancaire avec ma banque, 100 000 euros, 150 000 euros. Non mais ça, les thunes arrivent. T'inquiète. Donc en fait, t'es là genre, ok, on repart de zéro. On repart de quand on n'avait pas du tout d'éditeur.
Je rends la Lamborghini.
C'est ça. Annule le jacuzzi, s'il te plaît, dans le studio. Donc, on a fait ça. Et en plus, on manquait de thunes. Enfin, on n'avait vraiment plus de thunes dans la boîte. Donc, on s'est dit, bon, tout le monde va... Chacun essaie de trouver de la presta de son côté pour stabiliser un peu sa situation. Parce qu'on était... En fait, on était vraiment dans une très bonne situation avec les éditeurs. Mais on était... pas très bien financièrement. On commençait à taper vraiment dans les réserves, des réserves, des réserves. En gros, aujourd'hui, j'ai des discussions en cours avec d'autres éditeurs. La démo est... Pour moi, elle est validée d'un point de vue quali par l'industrie, c'est-à-dire... mais en fait... Et alors, le plus frustrant, c'est que tu peux te dire, il y a eu beaucoup de refus, bon, bah, c'est la même chose. Les refus, les raisons des refus n'ont rien à voir les unes avec les autres. Absolument aucun rapport.
Est-ce qu'il tourne autour du pot?
Rien du tout.
Tu sens que c'est un truc qui... C'est pareil, c'est un
non,
peu genre...
c'est totalement différent. C'est des raisons complètement différentes. C'est comme si, je sais pas, tu sortais avec trois filles et le même jour, elles te larguent, mais rien à voir. Tu fais jamais
la comparaison.
Je sais pas c'est quoi comme comparaison, mais j'étais là genre, mais attendez, comment vous pouvez ne pas être d'accord du tout sur le pourquoi?
Alors du que, refus,
ouais. J'étais là,
ouais.
Tu sais, j'étais là genre, qu'est-ce qui se passe?
Mais tu penses pas que c'est une raison, genre une... Tu sais, ils ont une autre raison derrière, c'est juste qu'ils ont trouvé un prétexte plutôt. C'est...
Alors, il y a de ça. Moi, je pense toujours que si le jeu avait été meilleur, il y aurait moins de chances de refus. Mais un nous a refusé pour des raisons purement financières. Il nous a vraiment détaillé en très précisément les raisons de son refus financier. Mmh. Et ça tenait la route en plus. Mais vraiment que pour financièrement, il pensait que... Et l'autre, c'était pas du tout financier.
Ouais.
C'était purement du design. Et pareil, il nous a détaillé en détail pourquoi le design. Et on était là genre, ok. Donc en fait, le design convient pour l'un, mais les finances non. Les finances conviennent pour l'un et l'autre. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, t'as l'impression... Moi, j'avais cette impression des éditeurs un peu sachants. Mais en fait, ils ont tous une façon assez particulière de comprendre le marché du jeu vidéo. Elle est pas mauvaise, hein, mais elle est vraiment très particulière. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent, il faut qu'ils écoutent le plus possible des gens qui ont déjà vu des choses, avec l'expérience, etc. Mais qu'ils n'oublient jamais que c'est des avis subjectifs au possible, giga subjectifs. Et que c'est l'accumulation de tous les avis qui, toi, fait que t'as pigé deux, trois trucs. Et effectivement, souvent, il y a deux, trois principes de base qui se recoupent. Mais par contre, vraiment... c'est pour ça d'ailleurs, c'est important, on dit toujours aux gens vraiment, allez voir tous les éditeurs, ne vous restreignez pas à un éditeur ou deux éditeurs ou même vos préférés. Ouais. D'ailleurs, c'est mieux d'aller les voir en dernier, comme ça les autres un peu essuient les pots cassés. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un peu, il y a un côté très émotionnel, très subjectif. T'as un éditeur qui va avoir le coup de cœur pour toi, pour un truc dans ton jeu à la con. Moi, je sais, parmi les éditeurs qui nous adoraient, il y en a un qui nous disait la musique de votre jeu, c'est ma sonnerie de téléphone.
Génial, c'est déposé ça, monsieur.
Maintenant paye. Non mais par exemple, tu vois, c'est, il nous disait la musique, je l'entends en boucle, elle est extraordinaire, comment vous avez fait, etc. Et on a parlé 20 minutes musique, trop bien. Et tu vois, c'est du coup de cœur. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont coupé la musique quand ils ont joué en mode putain, c'est chiant. Mmh. et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. On recherche de l'éditeur. On fait une petite pause dans la production pour ramener un peu d'argent. À voir ce que ça va donner. Il y a des chances que le projet n'avance plus si ça dure trop longtemps. Mmh. J'ai encore des bonnes touches avec des éditeurs, certains qui sont encore intéressés à deux doigts de faire une offre, etc. Donc voilà.
C'est super intéressant comme sujet. C'est un truc auquel j'ai pas trop réfléchi. Je viens un peu du monde de la start-up et ça ressemble tellement aux investisseurs.
Exactement.
Et c'est similaire. Ouais,
ouais, t'as une grosse segmentation des éditeurs, j'ai l'impression. Enfin, tu parlais tout à l'heure d'éditeurs locaux, puis après, certains européens. Ils vont avoir des opinions, ils vont avoir des trucs qu'ils ont réussi.
Très culturel aussi, oui.
Ils vont être en concurrence. Oui. Et effectivement, quand tu parles à un investisseur local, il va te dire je pourrais mettre peut-être 3,50 euros.
C'est ça.
Et alors que tu vas voir un États-Unien, il te dit tu voudrais pas 3,5 millions tout de suite, là, maintenant, mais il faut que tu fasses 10 millions dans les 3 mois qui viennent. Et après, j'imagine que tu vas voir Epic et tu dis j'ai un jeu avec 7 DA. Il va te dire ça nous intéresse pas du tout, mais celui d'à côté. Goblins par exemple, qui ont plutôt une patte artistique, j'ai l'impression, eux vont avoir un regard critique sur l'art.
Goblins justement, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font des jeux toujours très systémiques. C'est la marque de fabrique de Johan, c'est-à-dire qu'il fait, toujours des jeux de gestion ou des tours par tour. Mais du coup, lui par exemple, il a été très critique tout au long de la prod du jeu et il nous donnait énormément d'idées super pertinentes sur le système. Parce qu'en fait, la DA, genre, ok, c'est validé. Mmh. Okay. Mais votre système, creusez le plus sur ça, creusez le plus. Et du coup, c'est quelqu'un de très systémique. Et de l'autre côté, on avait des éditeurs genre Team 17, si vous connaissez.
Ouais, Worms, tout ça, ouais.
Ouais, Headbangers, dernièrement. Mmh. Excellent jeu. Qui lui, ok, votre design. Si vous le dites, je kiffe, je comprends, ok. Mais c'est pas tout, quoi. Genre, le design, ok, c'est bon. Mais du coup, maintenant, on va parler de votre marketing. C'est quoi? Comment vous voulez vendre le jeu? C'est quoi? Vous allez marketer quoi dans votre... Tu vois, il y a des discussions qu'on n'a jamais eues avec des éditeurs français, par exemple.
Ouais.
Et des discussions qu'on n'a jamais eues avec des éditeurs anglo-saxons. Ouais. Les anglo-saxons sont giga portés sur le marketing. Ouais. Comment tu vas vendre ton jeu? C'est genre, ça. Ok, il y a ça dedans. Ok, comment tu vas le vendre?
Ouais.
À qui? Tu vas leur parler de quoi? Quand? Tu vois, alors que les Français, c'est vrai qu'ils sont plus concentrés sur le produit. Et on dit ça, les Américains, ils vendent avant d'avoir le produit, et les Français, ils font le produit, après ils le vendent, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Un peu dans la start-up, c'est pareil.
Sur un truc, on prend le risque au cas où quelqu'un d'autre investit, alors qu'en France, on estime le risque avant d'avancer.
Oui, c'est ça.
Donc ouais, ça me surprend pas du tout qu'en France, on serait plus axé sur la partie DA et la mécanique et tout, alors qu'aux États-Unis, ce serait, ouais, mais tel ratio financier a l'air un peu louche.
Non, mais on vend le jeu. Il nous disait vraiment, on veut comprendre comment on vend le jeu avant de faire le jeu.
Ouais.
Et en comprenant comment on va le vendre, on va le faire différemment. Alors qu'en France, on voit plus comment le jeu est fait. Mmh. Il me fait penser à quoi? Bon, bah ok. Là, il est bien fait. On le vend.
Et c'est culturel aussi. Je crois qu'aux États-Unis, on dit spray and pray. C'est j'investis dans 300 projets et je mets un peu. Alors qu'en France, on va sélectionner le projet qu'on pense vraiment va réussir. Et s'il y a un tout petit truc qui marche
possible.
Pas...
Alors, en fait, j'ai été beaucoup conseillé par Corto, je pense que vous avez reçu ici.
Ouais, ouais.
Et lui, effectivement, il m'a beaucoup aidé sur le côté un peu chercher des investisseurs, etc. Et finalement, ton projet, c'est une start-up, en fait.
Ah oui, il y en a qui font. C'est son, enfin, sa façon de penser, d'avancer... Quand on l'avait reçu, il nous avait vraiment dit ça. Hein. C'est, je fais une boîte et c'est comme ça qu'on va avancer. Surtout qu'il a énormément d'ambition pour aller...
Il m'a vraiment convaincu là-dessus, en fait. Et moi, je convainc aussi, je répands la bonne parole auprès d'autres... Oui, je prêche. Non, mais parce qu'en fait, les créateurs de jeux vidéo que je rencontre, souvent, c'est des créatifs, c'est des sensibles. Tout le monde, enfin, tu dois être sensible à ton environnement pour pouvoir créer des choses, des histoires, etc. Et du coup, le côté financier, le côté structuration, même le côté faire de l'argent, du commerce, c'est pas que ça les intéresse moins, mais ça arrive après. L'important, c'est le message que ça transmet.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, je dis genre, ouais, ok, mais si t'es structuré financièrement, tu peux te payer, tu peux payer des gens, tu peux être tranquille, tu peux ne plus penser à ça. Tu peux, si demain vous voulez un baby-foot dans l'entrée, tu peux mettre le baby-foot. Si vous voulez des studios plus grands, vous prenez des studios plus grands. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher, notamment des subventions. Et genre, parce que j'ai fait quelques podcasts et des fois des gens me disaient tout, comment t'as trouvé de l'argent. Mais en fait, il y a de l'argent, mais c'est juste que on parle un langage parfois trop jeux vidéo. Ouais. Moi, par exemple, j'ai fait le tour des banques nantaises pour chercher mon prêt professionnel. Et si je parlais de jeux vidéo tout le temps, impossible que j'aie mon prêt. Mais tu vois, genre, j'avais une technique, je jaugeais la culture vidéoludique d'en face. Mm-hmm. Ma technique, c'était je commençais par Tetris. Je lâche Tetris comme ça et je vois les yeux. Tu vois. Ok, Mario. Ensuite, si c'était un mec, je disais FIFA. Et tu vois, là déjà, FIFA, ça veut dire qu'il joue un peu, qu'il voit un peu les jeux vidéo. Mais il y en a que je perdais des Tetris. Faut dire, il y en a genre les jeux vidéo, c'est quoi? Vraiment. Et du coup, bah là, je fais pas un jeu vidéo, je fais un produit. J'ai pas des joueurs, j'ai des utilisateurs. Ouais. Tu vois,
T'adaptes ton discours à la personne en face de toi.
C'est ça, faut savoir un peu se détacher en tant que créateur et se dire, en fait, c'est une entreprise qui fait un produit, qui crée un service, plutôt un produit, qui le vend à une audience, qui va faire une marge, et qui va réinvestir dans un nouveau produit. Ouais. Et tu vois, si t'arrives en tant que créateur ou en tant que, disons, chef de projet, à avoir un peu cette vision, il y a beaucoup plus d'aide pour toi, parce que la tech, c'est quelque chose sur lequel on investit beaucoup en France. Et tu vas aussi avoir un regard très pragmatique sur ton jeu. Bon, bah peut-être qu'il ne faut pas passer 2 ans à prototyper l'idée. Peut-être qu'on y va maintenant. Et puis, on voit déjà le marché. Qui l'achète? Tu veux l'acheter? T'aimes, mais tu ne veux pas acheter. Tiens, c'est bizarre. Donc, c'est vrai que je prêche un peu cette parole. Comme Corto, il m'a beaucoup aidé sur le côté va voir des investisseurs, montre-leur ça, un plan financier, etc. Et moi, je vais encore un peu un étage en dessous de dire, attends, mais t'as compris que ton projet, c'est aussi pour faire de l'argent. Je veux dire, c'est pas juste pour créer une page Steam. C'est aussi quelque part que tu veux le vendre. Donc, si tu passes 95% de ton temps à le créer et 5% à le vendre, il y a un truc qui va pas et ça marchera pas, quoi.
Est-ce que vous êtes tous alignés comme ça ou est-ce que toi, tu prends la partie business et tu dis du coup, eux, ils pourront rester créatifs?
Ouais. Alors, je prends vraiment la partie finance, thune. Okay. Je prends pour moi parce que c'est aussi une énorme source de stress. Ouais, le côté thune, est-ce que je peux payer les gens? Est-ce que je peux pas payer les gens? Est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'on vire? On a dû virer des gens. Parce qu'on a eu des coups durs financiers. Même dernièrement, on a viré deux alternants qui étaient avec nous depuis un moment. Bon, ça a toujours été consenti parce que toute la communication est toujours libre dans la boîte. Je leur dis, dès que j'ai l'info, je leur dis. Mmh. Voilà l'info. Dès qu'on utilise la thune, je leur dis. Voilà toute la thune qu'on a utilisée. Je leur ai fait à la fin de l'année. Ben, écoutez, on avait à peu près 100, 120 000 euros. Voilà comment ils sont utilisés. Ça. Tout le monde est au courant de tout. Mais effectivement, je prends cette partie-là pour moi parce que aller voir un banquier qui te dit « Ok, t'as le prêt. Allô, en fait, j'ai vu mon directeur, t'as pas le prêt. Repasse et puis tu vas voir un autre banquier. » Enfin, tout ça, c'est une énorme source de stress. En plus, il y a du loyer concret à la fin du mois. Donc, faire des vidéos comme ça. Et puis déjà, franchement, le jeu vidéo, c'est ce que je leur disais, c'est assez difficile comme ça, franchement.
Ouais.
C'est hyper complexe à faire parce qu'on n'a pas d'expérience de sortir un jeu vidéo. Et on est là à tâtonner, le monde nous envoie des signaux contradictoires tout le temps. On adore votre jeu, touchez à rien, votre jeu est nul. Pourquoi vous êtes dans le jeu vidéo? Changez ça, changez tout, ne changez rien. Et t'es là genre, ok. Et en plus, il faut gérer le côté, c'est une structure juridique, une responsabilité pénale, il y a des garanties sur tes têtes. Prêt personnel, alors oui, mais je veux une caution personnelle. Donc tu vois, je me suis dit, si en plus je leur mets une contrainte, enfin un truc qui les démange psychologiquement comme ça, puis tu sais, au moindre coup dur, c'est le genre de truc que t'entends beaucoup dans ta tête.
Ouais.
Je me suis dit, vas-y, je prends tout ça pour moi. Et puis eux, ils vont vraiment se concentrer sur le côté créatif et technique. Et ça a plutôt bien marché d'un point de vue, disons, gestion de boîte. On a eu quasiment peu de disputes et les rares disputes qu'on a eues, elles ont permis de faire des énormes changements créatifs quand on a supprimé à peu près la moitié du jeu, du gameplay. Et c'était vraiment trop bien. Donc oui, pour te, je sépare vraiment le côté biz, dev, thune, du côté artistique, qu'est-ce qu'on fait, le produit, etc. J'essaie vraiment de faire une cloison étanche.
Sauf qu'en fin de journée, c'est le joueur qui est... Parce que tu peux dire... on va mettre des QTE partout, ça fait du fric. Et en face, mais artistiquement, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire un jeu avec des QTE. Et du coup, le débat est purement financier, créatif, financier. Mais si t'as un joueur qui jouent à ton jeu, et il y en a 10 qui passent et qui adorent telle partie, mais qui adorent pas telle. Ça met tout le monde d'accord et c'est bon, on peut avancer.
C'est vrai. Après, je te dis, nous, on avait ce truc aussi, honnêtement, des éditeurs qui te disent « Je signe ton jeu si tu changes ça. » Alors, la phrase a été prononcée.
Et tu
changes, ils signent pas. Mais ils te le disent. Non, mais c'est une giga arnaque, toi, tu le sais pas. C'est un peu con. Enfin, je le sais. mais ils te disent, voilà, tu changes ça, je le signe, ton jeu. Bon, t'as beau être créatif et tenir à ton truc, tu dis, mais là, je sécurise un an de dev.
Tu fais les compromis, quoi.
Tu fais les compromis. Tu tapes, tu fais... Là, du coup, je ne suis pas révélé, mais typiquement, on avait eu un éditeur qui nous avait dit ça.
Ouais.
Vous changez ça, on signe. Les conditions, là, super. La thune, super. Voilà les conditions, voilà les ratios, etc. Vous changez ça, on signe. Si vous arrivez à faire ça, c'est ça la phrase. Si vous arrivez à faire ça, on signe. Tout le mois d'août, je leur dis, bon, vous avez vu tous les fichiers de production que je vous ai mis, les tâches poubelles. On va faire ça. Tout le monde fait ça. Personne ne fait autre chose. Ouais. Tout le monde ne fait que ça.
Que ça, ouais.
Vous ignorez tous les autres tours. Pendant 2 mois, on fait ça. Et honnêtement, on le fait super bien. C'est-à-dire qu'à la fin...
Ça correspondait pile à ce qu'ils avaient demandé.
Plus. Non, mais franchement, je leur ai dit, voilà, ils veulent ça, on va aller là. Okay.
C'est trop bien, monsieur.
C'est ça. Qu'ils nous disent, ah, c'est parfait, on revient. Alors ça, c'est bien, mais du coup, j'aime pas tout le reste.
Ah.
Et du coup, on signe pas.
Est-ce que t'es allé jusqu'au fond de la psychose où tu t'es dit en fait il voulait quelqu'un qui aimait me dire non, je ne changerai jamais mon jeu et c'est ça qu'on va financer.
peut-être.
Ouais, des fois tu peux avoir ce truc de
c'est ça.
J'aurais signé sinon. L'argent était là, tiroir du bas, l'argent était là.
Une mallette qui l'ouvre.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est dommage, c'est l'autre. Non mais je pense que c'est quand t'es expérimenté, c'est un jeu de rôle, c'est-à-dire que toi tu dis bien sûr je vais le faire. Et lui, il te dit fais-le, toi tu le fais pas, et lui, il s'en fout. En fait, je pense que c'est un jeu, tu vois. Mais quand t'es un nouveau joueur, t'as pas fait le tuto,
ouais.
T'arrives, il te dit je signe, t'es là genre bah ok, on le fait. Enfin, et ah, bien sûr que non, j'allais pas signer. Enfin, qu'est-ce qui t'a fait croire que j'allais signer? Je sais pas, tu l'as dit. C'était un indice ou pas, genre. Mais voilà, il y a eu beaucoup de moments comme ça où je l'ai eu très très mauvais sur le coup.
Ouais.
Et je me suis dit ok, j'ai compris, tu vois. Et maintenant, c'est bon, tu me la refais pas à l'envers. Et en même temps, je me dis, bon, c'est aussi quelqu'un qui a ses propres intérêts, il a des ressources qu'il doit utiliser, faire fructifier. Enfin, au bout d'un moment, tous les éditeurs veulent te pousser dans leur direction et c'est un peu le jeu de la concurrence. C'est-à-dire que toi aussi, tu vas leur dire, t'es mon éditeur préféré. Mmh. Alors toi, vraiment, c'est mon préféré. Toi, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre. Enfin, tu vois, toi aussi, tu entends...
Tu joues là-dessus aussi.
Ouais,
ouais. Ils savent aussi, donc...
C'est un jeu de rôle.
Il faut savoir dire oui au premier.
Ah, tu dis oui à tous.
C'est lui qui te donne l'argent.
C'est bah après, c'est quand tu arrives dans des cas, comme tu disais, tu en avais 3, et c'est là que tu fais jouer potentiellement. Bah, t'as un jeu où tu rentres dans le... Est-ce que je peux faire... je peux appuyer sur l'un pour que ça me donne plus avec l'autre.
Alors ça, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai appuyé sur tout le monde et tout le monde s'est effondré.
Ouais. Donc c'est, là, c'est le risque quoi,
c'est ça.
Qui est tout double.
Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que tu dis oui à tout, tout le temps. C'est-à-dire que tant que tu signes pas définitivement le contrat, tu dis à la personne que oui, c'est toi, selon tes conditions, et on va jusqu'au bout. Et vraiment, ok, c'est que toi. Maintenant, on est dans le dur, oui, il n'y a plus de concurrence. Et c'est vrai que j'avais pas compris ça. Moi, je m'étais dit, enfin, joue la carte de l'honnêteté, ça paye. Tu sais, quand j'étais petit et que il y avait un demi-point en plus dans la copie, j'allais voir la prof et je disais, vous m'avez mis un demi-point en plus, regardez. Et elle me dit, bah allez, garde-le. Et quelqu'un d'honnête. J'étais genre, tu peux avoir le demi-point et être quelqu'un d'honnête. Donc je me suis dit, carte de l'honnêteté, vraiment. Genre, ouais, on a reçu une offre, mais bon, voilà. Là, pour l'instant, on n'a pas d'offre. Tu vois, genre, vraiment, j'étais honnête. Et l'éditeur à 100 000 euros, j'étais giga intéressé. Mais c'est vrai que j'avais d'autres meilleures propositions. Donc je lui dis, bah, je suis intéressé, mais il faut que je réfléchisse. Ce qu'il aurait fallu faire et la bonne chose à faire, c'est de dire, oui, commençons tout de suite.
Ouais.
Rédigeons les contrats, signons.
Mais le temps que tu fais ça, ça laisse du temps pour aller voir autre chose.
Exactement.
Et après, tu fais ah, finalement, non.
Exactement. Mais je trouve que c'est tellement violent. Enfin, c'est le jeu, mais quelqu'un qui ne s'y connaît pas,
il
se dit mais attends, mais c'est violent. Parce qu'en plus, les échanges sont hyper amicaux, cordiaux.
Bah oui.
Mais vraiment, tu parles de ta vie privée. Et en fait, du jour au lendemain, ça devient non. Moi, je trouve que c'est un mot très violent.
Ça devient cordialement à la fin des mails, les trucs
exact,
comme ça.
Exact. Ouais, bien cordialement. Puis reviens nous voir pour ton prochain jeu.
C'est ça, ouais. Mais oui, on est amis, c'est vrai. Je viendrai vous revoir.
Et là, genre, bah non. Je veux. Non, mais c'est extra. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent, tout devient très très violent d'un point de vue relation humaine, quoi.
Et bah du coup, ça me fait passer à un sujet un peu connexe. C'est est-ce que ces refus que tu as eu des éditeurs, tu le lis à ce qu'on entend en ce moment? C'est la nouvelle Indiepocalypse?
Oui. Alors, je vais vous donner ma take là-dessus. Pour moi, il y a vraiment le côté les taux d'intérêt qui a beaucoup joué. C'est-à-dire les taux d'intérêt sont extrêmement élevés aujourd'hui. Quand j'ai fait ma simulation de prêt en juin 2022, donc il y a un an et cinq mois, on m'a proposé un prêt à 1,9%. D'un taux d'intérêt. Le prêt que j'ai contracté en mai de cette année, il est à 4%. Et le nouveau prêt que j'ai demandé en août, il est à 5%. Les taux d'intérêt sont hyper élevés. Et en fait, quand on n'est pas de la finance, on se dit franchement, casser les couilles pour de 2 à 5%, c'est mignon. Alors, c'est complètement illusoire le 2 ou 5. En fait, ça ne veut pas du tout dire que tu rembourses 5% de plus. Un prêt à 5%, il te coûte à peu près 30 à 40%. C'est-à-dire que si tu demandes 100 000, tu rembourses 140. Mmh. C'est gigantesque. Ça veut dire qu'en fait, même si ton projet a 40% de rentabilité, bah c'est nul. Mmh. Parce qu'en fait, tu finances même pas le prêt. Donc, il faut que ton projet il ait une rentabilité de malade.
Ouais.
Et en fait, du coup, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. Donc, les banques en donnent moins.
Et du fait que les banques donnent moins, les éditeurs ont moins envie.
C'est ça. Les éditeurs, moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont moins d'argent. Que c'est plutôt chi de le dépenser, qu'ils peuvent moins investir. Parce que, vu qu'ils gèrent des énormes masses d'argent, ils ont beaucoup d'encours auprès des banques, ils ont beaucoup de dettes, etc. Donc, si les taux flambent, ils deviennent un peu plus crispés. Ça, pour moi, c'est le premier côté qui touche les éditeurs et le jeu vidéo. Parce que nous, on trouve moins de prêts bancaires. Une banque qui prête à 5%, enfin, il faut qu'elle vraiment s'assure que tu vas rembourser et caution personnelle et qu'est-ce que t'as comme ressources chez toi? Ok, ça marche. Enfin, tu vois, vraiment. Donc, ça, c'est un. Deux, je trouve que il y a eu un effet très violent post-Covid qui a touché toute la tech, ça vous l'avez vu.
Ouais.
Toutes les boîtes ont viré 13-15% de leurs effectifs et c'est pas un climat qui est rassurant pour tout. C'est pas le moment où tu commences à faire des investissements de ouf ou le petit studio qui a une démo pas mal.
Ouais, ça t'encourage pas à prendre
lui,
des
non.
risques quand même.
Tu prends vraiment...
studios peut-être qu'ils sont plus safe. Quoi.
Ouais, tu renouvelles celui qui a sorti un 1, tu fais le 2, des trucs à licence. Tu vois, vraiment, tu te casses pas la tête. Quoi. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont en train de fermer. Ou qui sont en difficulté et ils ferment bientôt. Quoi. Donc c'est aussi un peu la fin. Alors, c'est un peu la fin de l'argent magique des éditeurs qui coulait à flot. Je pense qu'il y a vraiment cet effet post-Covid où il y a eu tellement d'engagement des joueurs que les gens se sont dit « Ok, ça marche. Bah, c'est ça le niveau. Voilà combien on peut vendre. » Et puis post-Covid, boum.
Ouais.
Ah merde, on peut vendre que ça. Et il y a de plus en plus de studios. Ah bah du coup... Moi, par exemple, pour te donner un exemple, quand j'ai fait une étude de marché sur mon jeu pour savoir combien il y avait de jeux qui ressemblaient au mien sur Steam, sur les deux dernières années. J'ai trouvé 100 jeux sur les deux dernières années. Alors qu'ils ressemblaient au mien, pas exactement, mais c'est à peu près les mêmes tags, la même price range, etc. Il y a 100 jeux qui sont sortis avec à peu près les mêmes tags et à peu près le même prix en 2 ans. C'est-à-dire que tu as 50 jeux par an. Ça veut dire que chaque mois, tu en as 4, quoi. Des sorties de jeux. C'est-à-dire que tu sors ton jeu, tu balances tout le market, allez, go, acheter. Une semaine après, nous aussi. Hein ? Et puis, il y a des gros jeux qui ressemblent vraiment beaucoup aux miens. T'as des Spots Games, par exemple, qui étaient sortis avant moi. Et t'as un truc qui s'appelle Rotwood du studio Clay. Donc, c'est ceux qui ont fait Don't Starve. C'est des DA magnifiques. Pareil, c'est super carte. Enfin, c'est vraiment comme notre jeu. Sauf qu'il y a du multi en plus. Et du coup, en fait, c'est extrêmement compétitif. Et nous, on a eu des retours, genre, votre jeu, on l'aurait signé. Mais là, c'est beaucoup trop compétitif.
Il y a trop de monde sur le marché, quoi.
Et alors, moi, je pense que... Donc voilà, il y a les taux d'intérêt, la tech qui se débarrasse de beaucoup de personnes d'un coup. Donc je pense que c'est ça qui fait... Et le fait qu'il y ait beaucoup de studios indés qui poussent partout, qui fait qu'il y a une énorme concurrence sur Steam, typiquement. Mais je pense que, moi, ça peut être pire, parce que j'ai lu pas mal d'articles qui expliquaient que des studios qui licenciaient comme ça massivement, ben, ça allait faire pousser des studios. Donc là, on connaît un peu une purge de studios déjà. Ben, les studios qui sont un peu fragiles, par exemple le mien, il y a un gros risque que le studio ferme, que toute la prod s'arrête et tout. Mais virer 50 personnes expérimentées dans ta boîte, un game designer, un dev, un artiste,
ça fait un indé.
Ça fait un studio indé, félicitations. Non mais tu vois, c'est ça. Ouais, c'est en ça, plus, tu leur donnes une petite... quand ils virent les gens, ils leur donnent un petit package de, ouais. de
30. Donc ça fait de l'investissement de départ.
Donc ça fait de l'investissement de départ, ouais, des gens frustrés. Ça, ouais. Allez, let's go, un jeu. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Tu as de la frustration, du talent, de l'argent.
Ouais.
Let's go,
ouais.
On fait un jeu. Ouais.
C'est comme quand les géants, genre Nokia, quand ils ont eu des soucis, ça a généré plein de boîtes en Finlande. C'est toujours pareil.
C'est ça. Bah, je pense qu'on se dirige un peu par là. Et du coup, peut-être qu'en 2024, ça va être mieux. Mais je pense que 2025-2026...
Genre il y a plein de productions sur marché,
plein de jeux qui sortent d'un coup, des beaux jeux, des jeux innovants. Ouais. Plus les indés, on fait pas les mêmes jeux, on fait pas des jeux. Enfin, en fait, il y a la façon facile de faire les jeux qu'on t'explique. Au bout d'un moment, l'éditeur il te dit genre tu veux pas juste faire ça, tu vois, genre c'est facile. Et toi t'es là ouais mais je voulais innover, je voulais faire ce truc, ça me tenait à cœur et tout. Et les indés ils sont comme ça, donc honnêtement je miserais un petit peu que dans 3 ans beaucoup de studios indés, des vraies pépites qui sortent. Du jeu de 10 à 30 euros, des équipes de 3 à 9 personnes.
Ouais.
Et vraiment, bonne chance pour sortir un jeu. Ça se trouve, je vais le sortir à ce moment-là. Ouais. Mais bonne chance pour sortir un jeu à ce moment-là. Parce que les gens ne peuvent pas tout acheter. Il y a une vraie concurrence.
Ouais.
Moi, par exemple, je m'étais fait accompagner à un moment donné par la CCI. Et j'avais en face de moi une fille qui ne connaissait rien aux jeux vidéo et qui a essayé de m'accompagner, mais ça a duré une séance. Mais par exemple, elle m'avait dit... Pourquoi j'achèterais votre produit et pas celui d'un autre? Et moi j'étais genre achète les deux. Enfin, je sais pas. Et en fait non, c'est une question extrêmement pertinente.
Ouais.
Le joueur, il se pose quelque part la question de si j'achète un jeu, je vais pas acheter exactement le même tout de suite après.
Oui, bah oui.
Et ça se trouve je vais rater la vague marketing et hop, oubliette. Et du coup, s'il y a deux jeux qui se ressemblent qui sortent, vraiment les ventes vont se diviser. Alors que nous, on a cette impression de dire, mais non, chaque jeu est unique.
Je pense que tu peux même aller plus loin dans le sens où si tu as un gros jeu, par exemple, qui sort en même temps que le tien, peut-être que les gens vont se dire, bah, je vais plutôt jouer à celui-là, et donc je vais passer peut-être 3 mois dessus, et ils auront oublié le tien, tu vois.
Ouais.
Bah, je sais pas, t'as GTA 6 qui sort la semaine où tu sors ton jeu, je pense que tu pars aux oubliettes, quoi.
Bah, c'est ça, il y a des éditeurs, ils me disaient, de toute façon, votre jeu, il va pas sortir telle date, parce qu'il y a tous les jeux qui sortent. Donc laissez tomber.
Ouais.
Les gens plus thunes, 70 balles, 60 balles. Celui qui a acheté deux jeux, tu vois, genre Baldur's Gate, Starfield. Bon, bah, ton petit truc à 15 euros qui passe, merci, mais attends 2-3 mois, quoi. Vraiment, oui. Et puis, nous, on n'a pas des campagnes marketing qui durent des années. On ne fait pas des statues à la gare Saint-Lazare. Hein. Nous, vraiment, c'est des petites pubs par-ci par-là, 2-3 ans des streamers et tout. Let's go. Ouais. Donc, ton jeu, s'il se fait éclipser par un autre.
Ah, c'est ultra stratégique, hein. Après, contre hypothèse, il y a eu quoi, un jeu spatial qui est sorti et puis ensuite il y a une palanquée de jeux spatiaux qui sortent. Je pense que Starfield, il ne faut pas sortir la semaine de Starfield, il faut sortir à peu près quand tout le monde a vu que c'était bien buggé.
Bien de la merde.
Avec un peu moins, un pricing un peu plus bas. Ouais. Et...
Bah, No Man's Sky, il y a eu d'énormes ventes avec Starfield.
Ouais.
Bah, parce que Starfield, je l'ai acheté. Et c'est vraiment de la bouse ce jeu, je suis désolé de le dire. Je suis un Bethesda fanboy depuis mes 16 ans, quoi, Morrowind, tout ça. Et j'ai acheté le jeu. C'est une bouse, mais même un indé ferait pas ça. Genre vraiment, l'espace, c'est une interface. C'est que des voyages rapides.
Ah oui.
Tu te balades pas dans l'espace. J'étais genre, pardon, j'ai un vaisseau. Laissez-moi me balader. Enfin, j'ai envie d'aller là-bas. Enfin, tu vois, genre.
C'est leur stratégie, ils veulent te frustrer pour que tu l'achètes pas et du coup ils n'ont pas d'argent.
Et du coup, c'est quoi le plan à la fin? Mais il était tellement pourri que No Man's Sky a récupéré pas mal de ventes.
Je pense que c'est la technique New Cola où derrière ils vont vendre Elder Scrolls parce que tout le monde va se dire non, c'était mieux avant. Quoi.
Le remake.
Sortez-nous un Elder Scrolls.
Reworked Definitive Edition, c'est ça. Mais oui, les gros jeux, en fait, il y a une vraie concurrence. Faut pas penser qu'on fait des produits uniques. Non, il y a une vraie concurrence. Faut vraiment faire gaffe à ça.
Ouais.
Et c'est bien de parler à des gens un peu de business. C'est bien de discuter de ça, de dire, écoutez, ok, je fais un jeu, mais c'est une entreprise avec un produit. Il faut un lancement, il faut un budget et tout.
Ah oui,
et le du marketing. Coup, enfin segway pour le dernier sujet, parce que le temps tourne. je voulais parler de Unity. Je crois que votre jeu est sur Unity et qu'ils ont fait une annonce récemment.
Oui.
Ah bon ? Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors déjà, je vais te dire un truc. Alors, j'ai commenté directement sur LinkedIn, j'ai dit à partir de demain, tous les flyers que vous ferez avec Photoshop vous facture une partie des flyers que vous faites. C'est-à-dire que si j'imprime 1000 flyers, Photoshop va me dire tu payes 1000 fois une quantité d'impression. C'est ridicule et c'est ce que Unity avait voulu faire. Ouais. C'était complètement absurde. Il y a eu des gens en mode fléchette dans la chambre avec Unity dessus et tirer dessus. Hein. Ouais. Il y avait vraiment des gens en mode
plus, backlash, j'ai vu ça,
plus jamais Unity. Godot a reçu des financements monstrueux.
C'est comme ça qu'il faut faire.
Non, mais il y a des studios qui ont dit, je me souviens le studio qui a fait Terraria, qui a dit on donne 100 000 dollars par an maintenant à Godot. Voilà. Et 100 000 dollars aujourd'hui, un truc comme ça. Mais vraiment suite à l'annonce, genre vite de l'argent, il faut que je donne. Enfin, et du coup, il y a eu un énorme clash. Parce que ce qu'ils ont proposé, c'était irrespectueux, débile, flou, machiavélique, tout ce que tu peux mettre comme négatif. Ouais. Juste après, ils ont fait genre, non mais en fait, vous n'avez pas compris. Oui. C'était encore désastreux. Et juste après, ils ont fait, bon ok, on a fait de la giga merde, en fait ça. Et honnêtement, c'était cool. Mais en fait, il y a eu tellement de trucs avant mauvais...
Que maintenant, les gens ont l'image.
Ouais, que les gens l'ont mauvaise. Moi, j'adore Unity parce que c'est super ergonomique. Mais je vais te dire, le truc très intéressant, c'est que tout le monde en parlait juste après, et même les éditeurs. Parce qu'en fait, on savait pas, à l'époque, on savait pas qui devait payer. C'était pas clair qui payait quoi. Et du coup, les éditeurs se disaient, attendez, c'est nous qui payons, c'est pas le studio, c'est sur nos marges à nous. Steam même se disait, est-ce que c'est Steam qui paye ? Devolver avait fait un tweet marrant en disant maintenant dans vos pitch decks vous mettez bien le moteur que vous utilisez, hein. Tu vois, ils avaient fait juste un tweet comme ça, Devolver. Et moi j'avais un entretien avec un éditeur, ça m'avait éclaté parce que le mec il me fait quand on a commencé l'entretien il me fait attends, t'as entendu ce qui s'est passé avec Unity? J'étais là genre oui. Il me fait, tu peux m'expliquer le modèle de facturation parce que j'ai pas très bien compris. Bon, il avait très bien compris. Mais tu vois, en fait, il voulait tester vraiment savoir si...
Ouais. C'était toi qui... Enfin,
si non, si j'avais studio, compris.
Oui, ouais, c'est
ça, si j'avais compris ce qui se passait.
Comment
si...
tu réfléchis? Tu vas faire un autre jeu, là, donc...
Non, mais c'est ça. Mais en fait, et du coup, même les éditeurs étaient en mode... OK, faut faire gaffe aux jeux Unity. Faut faire gaffe aux porteurs de projets, s'ils sont conscients de ce qui se passe, s'ils ont intégré ça dans leur plan financier, s'ils ont... Après, ça touchait beaucoup plus les free-to-play que les jeux premium. Un jeu à 25 euros, que t'es 10 centimes quand il y a une installation, même frauduleuse, bon, c'était pas... Mais je me souviens, j'ai eu cette question. Alors, j'ai trouvé ça mignon parce que c'était amené en mode « Ah, j'ai pas compris. Moi, je suis éditeur, c'est mon business model, mais j'ai pas compris le modèle de facturation. »
Explique-moi les jeux.
Explique-moi, s'il te plaît. Et tu sais, j'étais genre, vous avez 20 minutes, expliquez le modèle de facturation Unity en 500 mots. Et du coup, vu que moi, je m'étais beaucoup emparé du sujet, je voyais à peu près, je lui ai dit à peu près ce qui se passait, les seuils, c'est la bureaucratie, franchement, ça aurait pu être français ce truc. Hein. Quand vous avez 100 000, mais pas la version pro, vous passez en version pro. Et si vous avez déjà la version pro, ouais. Alors là, c'est 20 centimes par copie, à partir de la 200 millième, une. Hein, pas les 200.
Ah, mais c'est un jeu. Et tu roules un dé. Et tu passes le...
Mais c'était incroyablement complexe. Et qui compte? C'est nous. Comment? On vous dit pas. C'est du secret industriel. Ah, d'accord. Non, mais c'était ouais. Insane. Et donc, ça, honnêtement, c'était désastreux pour tout le monde. Il y a des super projets qui sont dit non, mais plus Unity, on fait tout à partir de Godot. Je trouve que c'est hyper dommage. Parce que tu tires une gigaballe dans le pied. Déjà que ton pied est criblé de balles quand t'es un dé. Là, tu te refous des coups de machette. Moi j'avais mis un petit post. Alors par contre, quand tu mettais un post sur Twitter, tout le monde le regardait, tu gagnais des follow, donc ça ouais. C'était cool.
Bah ça, c'était le sujet ouais. Du moment, hein. T'en as eu plein après. C'est ça. Sur la tech. Mais du coup, ouais, t'as comment dire, je sais plus ce que je voulais dire.
Non mais je disais, moi j'avais fait un petit post sur Twitter disant, parce qu'en fait je voulais être un peu à contre-courant et je voulais dire à peu près ce que je pensais, jamais ouvrir ma gueule. Et tout le monde disait, ouais, genre Unity vous êtes des connards, allez ciao, tu vois. Et moi ce que je voulais dire, c'est que alors, en vrai, je peux pas partir. Je sais pas comment vous faites pour faire tout votre jeu sur la
Twitter. Là où t'es rendu, en fait, c'est ça. Ouais.
Bah oui.
Ce que je voulais dire, c'était, t'en as qui vont choisir aussi de partir de Unity juste après leur jeu qu'ils ont en train de faire. Tu vois, genre ils finissent. Hop.
Mais ça, pareil.
Tu vois, c'est un truc. Ça demande des compétences à réapprendre et tout. Mais
tu perds 3 ans, 4 ans d'expérience. Si tu connais toutes les méthodes, tu connais tout. T'es là, genre, oh putain, je navigue. Les yeux fermés, je te code le truc, les yeux fermés, je sais faire des trucs de dingue. Case départ, nouveau studio, nouveau moteur, nouveau tout. Les fichiers, ils sont où? Attends, il n'y a plus de blueprint. C'est plus du C#, c'est du C++, donc t'es développeur. Bah, c'est plus le même langage du tout. C'est un autre langage.
Non, mais c'est
vraiment hyper compliqué. Donc moi, j'avais mis un truc disant, franchement, c'est juste un énorme coup dur. Mais on en a plein en tant qu'indé, tous les jours. Genre, la veille, j'avais ma banque qui m'avait dit finalement non pour le prêt. Et puis, on reverra. Enfin, tu vois, je suis pas en mode. Enfin, ok, Unity nous fait un giga coup de pute.
C'est le chien avec le feu.
Oui, this is fine. Déjà, t'as une explosion. Ah, ça, c'est le micro-ondes. Tu vois, c'est vraiment ça.
Après, ils te tiennent, quoi, en soi, parce que du coup, t'as cette expérience, t'as ce truc, t'as cette plateforme qui fait que.
Mais ils te disent en plus, c'est rétroactif. En plus, c'était ça l'arnaque. Hein.
Ah oui, oui.
Si vous sortez votre jeu avec Unity, alors que vous avez accepté d'autres conditions d'utilisation, c'est quand même ça. C'est rétroactif. Et là, le nouveau truc qu'ils ont dit, c'est si vous faites votre jeu sous la nouvelle version d'Unity, tu vois, avant, c'était vraiment genre, je te dis, l'abonnement Netflix, au 30 du mois, il te dit, ah, c'est plus 20 balles, c'est 40. Hein. C'est ce mois-là, ce mois, c'est 40. T'es là, genre, je peux dire non? Si tu veux, c'est 40. Donc ouais, c'était super dur, mais en vrai, les studios comme les miens, 2-6 personnes, tu passes un an et demi à bosser sur un truc, t'as pas de thune, tu commences à peine à être bon dans ce que tu fais, tu commences à peine à ne pas avoir des bugs sur bugs sur bugs sur bugs. Aucun monde où tu changes de moteur comme ça. Et honnêtement, même pour le 2, je sais pas si les personnes qui ont dit ça vont s'y tenir, parce que sous le coup de la colère, tu dis tout. Hein. Vraiment, genre, fini le jeu vidéo, fini Unity, fini virer le CEO, je suis parti. Enfin, tu vois, vraiment, ils étaient comme ça, les gens. Et du coup, ils ont viré en plus le CEO, mais... Donc, il y a beaucoup qui peuvent dire « Ah non, mais du coup, on reste, parce qu'ils ont accepté mes demandes de studio de 3 personnes. » Tu vois, genre, tu peux dire ça. Mais même quand tu finis ton jeu et tu passes sur le 2, sur un autre moteur, enfin, franchement, bon courage, les gars. Je sais même pas si c'est une bonne décision. Est-ce que... Il y a aussi pas mal de gens qui disaient « La confiance s'est rompue. » Je sais pas, il y avait une confiance. Tu fais confiance à Google, tu fais confiance à Amazon. C'est quoi ce monde où tu fais confiance à des gens que tu connais pas?
Ah, avec Unity, je vois un peu le truc.
Mais Unity, il y avait un petit côté sentimental.
Ouais, ça vient de... T'as l'impression que c'est des gens comme nous. Ils font un moteur pour nous.
Des indés.
Génial, ils nous comprennent.
Après, c'est le moteur des indés. Ils casseroles d'avant, je crois. Mais...
Peu. Mais ils commençaient à accumuler on fait plus de l'indé, on fait du pro. On était là genre, ouais, bon, on peut quand même jouer entre nous, les indés, c'est pas grave. mais c'est vrai que là, ils ont montré leur côté capitaliste, tunas à fond. Et ils sont un peu revenus en mode « Bon, ok, les indés, c'est cool. Excusez-nous, pardon. »
Il y avait du capitalisme, en fait.
Non, mais il y a des gens, je te promets, il y a des gens genre « Pardon ? Comment ça, vous voulez faire de l'argent et les jeux ?»
C'est
et j'étais là genre « Mais attendez, mais day one ?» T'as un produit, toute ta tech, tout ton jeu, il est sur un produit, tu le payes jamais. En gros, un indé, c'est ça. Hein. Ouais. Toute ta tech, c'est un produit que tu payes jamais.
Ouais.
Et un jour, il te dit « Alors maintenant, tu payes, c'est des conditions de bâtard. » Et t'es là genre « Non. » Non, 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 je suis pas d'accord. Vous changez ça tout de suite. Hein.
Moi, j'ai un bloqueur.
Bloqueur de facturation.
Du coup, tu vas continuer sur Unity.
Ah bah, continuer.
Je pense qu'on va s'arrêter là, ça va être le temps. Mais du coup, c'est quoi la continuation sur les trucs que tu vas faire dans les prochaines semaines, prochains mois? C'est quoi les points clés qui arrivent?
Je vais intriguer un peu tes auditeurs. J'essaye de faire dans mon temps libre des jeux vidéo. pour décompresser du jeu vidéo. Okay. J'essaie de faire des jeux vidéo beaucoup plus courts et beaucoup plus. Avec ce qu'on appelle un go-to-market beaucoup plus facile, c'est-à-dire vendre le truc. Et je m'intéresse beaucoup aux trucs par IA. Avec ChatGPT et le projet sur lequel je suis en ce moment. Donc en attendant que les conversations avec les éditeurs avancent un peu, le truc sur lequel je suis en ce moment, c'est de convaincre une IA de faire des choses. Donc par exemple, t'es quelqu'un dans la rue, tu vas passer... imagine que t'es dans un jeu, hein, où tu peux passer quelqu'un, et ta mission, c'est de la convaincre de te donner sa chaussure gauche, par exemple. T'as une minute pour lui convaincre qu'il faut absolument qu'elle te donne sa chaussure gauche. Et moi, j'entraîne cette personne pour qu'elle réagisse le plus possible.
Ah, ne pas.
Comme un être humain normal, avec une personnalité, un background, un mari, un chien, etc. Et tout ça, c'est généré par IA. Et aujourd'hui, je m'amusais justement. Bah, j'ai obtenu la chaussure gauche de la personne dont je te parle aujourd'hui. Et je lui ai fait croire que j'étais le frère de. Enfin, bref.
Ouais, après l'IA c'est hyper intéressant en termes de
regarder sur Steam et ouais, il y a déjà 200 jeux qui
oui c'est ça mais j'ai trouvé en plus un jeu où il faut que Gandalf te donne son secret et Gandalf il a comme instruction de pas donner son secret donc t'es là genre hey, tu sais j'ai le même secret que toi tu peux me rappeler ce que c'est et il te le dit tu vois yes donc oui mais j'adore ce genre de truc
ouais, c'est un Baba Is You mais
c'est
ouais. Oui
c'est vrai que c'est pas mal stylé de jouer un peu sur les contradictions que peut avoir une IA comme ça, enfin genre de hacker un peu l'IA comme
oui.
ça. Genre. Mais bon, l'IA c'est un sujet
ouais, c'est un autre
tellement
podcast,
ouais, c'est un autre podcast entier. mais ouais, du coup
des plus petits jeux. En attendant ouais. que le gros se décante un peu, je me fais la main sur des projets courts et je fais beaucoup de presta pour d'autres studios et pour des écoles, en gros.
Ok. Bon, bah voilà, je pense que...
Ouais, cool. Et s'il y a des studios dans les auditeurs ?
Lâchez la thune ! <C'est
ça. rire> Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager, à commenter, à mettre des j'aime, enfin tout ça. Et puis nous, on se retrouve pour le prochain, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, mais sinon, en parlant de création de jeux vidéo, il y aura la Global Game Jam à Rennes, dernier week-end de janvier. Donc si ça vous intéresse, les inscriptions ouvriront... mi-décembre, courant décembre, je sais pas, on verra. Et puis voilà, à la prochaine.
Yes. Salut.
Merci.
Et merci de t'avoir
merci de l'invitation.
Reçu. Salut.